Donc maintenant, on va vous présenter le module d'approfondissement. Ce module d'approfondissement est une épreuve facultative, d'accord ? C'est un bloc facultatif, donc un bloc optionnel, c'est très important. Pourquoi ce bloc d'approfondissement a été écrit donc, et apparaît dans ce référentiel GTLA ? Tout simplement parce que souvent tout diplôme ne répond pas exactement à la demande du bassin local, du bassin économique local. Donc on a souhaité qu'un module d'approfondissement puisse répondre aux attentes des professionnels sur votre bassin d'emploi. Donc les objectifs du module, donc effectivement c'est de répondre à l'attente des professionnels. À partir de là, donc quel est l'intérêt ? Insertion professionnelle des étudiants, bien entendu, dans un premier objectif, et on verra plus tard pour la poursuite d'études supérieures, donc post-BTS. Les différents axes donc, que l'on va étudier, donc on peut agir sur l'approfondissement de compétences relatives à certaines compétences du référentiel, premier axe. Exemple, j'ai mon bassin économique qui demande des personnes qui soient spécialisées plus en douane, donc j'ai le droit à ce moment-là de construire un référentiel lié à la douane. Deuxième axe, acquisition de compétences spécifiques qui est en lien avec l'environnement de mon bassin économique, mais qui n'apparaît pas dans le référentiel. Troisième axe, donc, acquisition de compétences professionnelles liées à la mobilité, donc, internationale. Le support. Le support, donc, grosse question par rapport au support. Projet pédagogique. Ce projet pédagogique qui sera mis en place par l'équipe, donc, qui va travailler dessus. Donc, il faudra définir des activités, des compétences et des savoirs associés. Ce qui veut dire qu'il faudra écrire un référentiel. Il est difficile de partir sur un module d'approfondissement comme ça, à l'aveugle. Il faut absolument qu'un référentiel soit transmis donc à l'IAIPR. On va voir tout à l'heure pourquoi. D'accord ? Écriture de référentiel obligatoire. Pour la validation, quand vous avez écrit vos référentiels, sachant que tout à l'heure, on vous présentera donc un référentiel sur un transport de matières dangereuses. Pour la validation du projet, donc, première étape, lorsque vous avez écrit votre référentiel, c'est de le présenter à l'IAIPR en charge donc, du BTS-GTLA. Si on prend l'Académie Clermont-Ferrand, donc, c'est Madame Schiff qui sera obligée d'accepter ou non donc, le référentiel qui lui sera transmis. Un petit coucou. Étape numéro 2, suite à la validation de l'inspecteur, il faut qu'il soit transmis à ce moment-là donc, aux autorités académiques. Autorité académique, c'est-à-dire donc le rectorat, est-ce qu'il va accepter la validation de l'inspecteur ou pas? Tant que vous n'avez pas ces autorisations-là, vous ne pouvez pas mettre votre module d'approfondissement en œuvre. Par rapport à ça, donc sur la certification, on va retrouver, comme vous pouvez le constater, donc vous l'avez en CCF, épreuve en CCF, on est bien d'accord. Du moment que c'est une épreuve en CCF, c'est seulement les points au-dessus de 10 qui sont comptabilisés. Ensuite, c'est une épreuve orale, donc un exposé du candidat avec un entretien avec le jury. Le support, alors le support, on s'est posé beaucoup de questions, donc ça peut être tout support. On peut trouver un dossier, on peut trouver une vidéo, pourquoi pas. Donc c'est vraiment suivant, c'est la liberté du candidat. C'est lui qui choisit quel support il va présenter donc au jury. Bien entendu, comme d'habitude, vous avez des annexes qui sont éventuelles, c'est pour appuyer effectivement son épreuve. La commission en charge de l'évaluation, c'est bien celui, bien entendu, le professeur qui va s'occuper de ce module-là, plus un professionnel du domaine visé. Ça, c'est très important. Moi, si je suis en transport de matières dangereuses, si je mets un professeur qui ne connaît strictement rien en matières dangereuses et un professionnel qui ne connaît pas plus, le candidat peut dire n'importe quoi. On ne va pas lui attribuer des points, entre guillemets, sur quelque chose qui est faux. Ce n'est pas possible. Donc, on met ce qui est très important, s'il n'y a pas de support, il n'y a pas d'évaluation. Ça, c'est très important. Donc, il faut absolument un support. Et s'il n'y a pas de support qui est transmis, pas d'évaluation, ce n'est pas possible. Pour la partie, donc, maintenant, en ponctuel. Donc, c'est les questions qu'on a pu se poser, parce que dans d'autres établissements CCF, généralement, le professeur en charge du module a des connaissances liées à ce module. Par contre, lorsque nous sommes en ponctuel, en fonds ponctuels, il faut absolument que la commission soit composée d'un professeur et ou d'un professionnel qui ait des connaissances sur ce module. Autrement, ce n'est pas possible. On a la même problématique. On ne sera pas capable d'interroger. Donc, il faudra faire très attention à cela. Les différents critères d'évaluation. Excuse-moi. L'exposé du candidat, donc il va présenter bien entendu son contexte, il va pouvoir décrire les différentes activités, présenter les démarches qu'il a pu mettre en œuvre, les différents outils, et bien entendu faire un bilan des différentes activités. Les critères d'évaluation, donc on va retrouver bien entendu l'appropriation des différentes compétences du domaine d'approfondissement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, la capacité de les mettre en œuvre, d'utiliser les bons outils, la qualité de l'analyse, qualité de la communication et bien entendu que ce soit la communication écrite ou aussi orale, pour voir un petit peu comment ça va se passer au moment de l'entretien. Le volume horaire donc, qui est donné, première année, 2 heures, deuxième année, 2 heures. Question, qui paie ? Qui paie les heures ? Donc, voilà, qui va payer les heures ? Alors, la problématique, effectivement, comme c'est un bloc optionnel, il faut qu'il y ait l'autorisation, déjà, comme j'ai pu l'expliquer, de l'IAIPR et du rectorat. À ce moment-là, est-ce que les heures sont prises sur la DGH ? Donc, à ce moment-là, ça sera l'établissement qui va accorder, oui ou non, ces heures. Ou à ce moment-là, est-ce que c'est le rectorat qui donnera des moyens supplémentaires ? Point d'interrogation, je n'en sais rien. Ça dépendra de chaque académie. On ne peut pas répondre justement à cette question. Donc, soit la DGH, soit à ce moment-là, des moyens supplémentaires attribués par le rectorat. Je continue sur l'exemple. Donc, transport de matières dangereuses. Je vous ai mis un exemple qui est affiché. Alors, sur l'exemple. Donc, lorsqu'il a fallu écrire le référentiel sur le transport de matières dangereuses, donc pour illustrer un petit peu donc, les différents propos, déjà, quels sont les besoins du tissu local ? Ça, c'est très important. À partir de là, comment je peux arriver à les recenser ? Donc, ce qui est important, c'est d'échanger avec les professionnels lors de visites de stage, lors de forums, souvent, avec les fédérations. Donc, déjà, c'est d'avoir une coopération très étroite avec les professionnels du secteur. À partir de là, vous arriverez à déterminer quelles sont leurs attentes. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas lancer quelque chose comme ça, ce n'est pas possible. Il faut vraiment que ce soit une demande du bassin local. Ensuite, deuxième étape, écriture du référentiel du module. Donc, il faut y pouvoir identifier les activités, les compétences et les savoirs à mettre en œuvre, toujours en relation avec les professionnels. Troisième étape, bien entendu, validation par l'IAIPR de l'Académie pour pouvoir le mettre en place. Donc, sur le référentiel que je vais vous présenter tout à l'heure, j'ai travaillé sur 3 pôles. Pôle numéro 1, donc sur le cadre réglementaire donc, des matières dangereuses. Là-dessus, je suis partie sur 2 activités. Déjà, tout ce qui est identification du cadre réglementaire du transport de matières dangereuses. Deuxième activité, la mise en application de l'ADR et bien entendu de l'arrêté français donc, de transport de matières dangereuses, TMD. Ensuite, pour l'activité numéro 2, je me suis dit, bon, on va travailler maintenant sur le conseil à la sécurité. Pourquoi ? Car il est obligatoire pour une entreprise de transport, du moment qu'elle fait du transport de matières dangereuses, d'avoir un conseil à la sécurité en interne ou en externe depuis 2001. C'est obligé. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, qu'il puisse découvrir le métier donc, de conseiller à la sécurité et de mettre en œuvre dans toutes les missions liées au conseiller à la sécurité. Pôle numéro 3, je me dis, bon, maintenant qu'on a fait tout ce qui est réglementation, savoir servir de l'ADR, de savoir un petit peu comment fonctionne l'arrêté français sur le transport de matières dangereuses, il serait peut-être opportun de leur montrer aussi que pour obtenir le certificat de conseiller à la sécurité, de travailler sur l'examen. Je ne veux pas dire que je vais les préparer à l'examen, pas du tout, mais leur montrer que s'ils veulent se présenter à l'examen, voilà comment ça fonctionne. Donc du coup, c'est-à-dire que dans l'examen, on va mettre toutes les compétences qu'on a vues précédemment, comment on va se servir de l'ADR, comment on va se servir de l'arrêté français, comment on peut répondre au QCM et aux études de cas du certificat de conseiller à la sécurité. Sachant que vu le nombre d'heures attribuées, ce pôle numéro 3, sera fait d'une manière plus light, entre guillemets, tout simplement parce que la formation de conseiller à la sécurité, généralement pour une préparation à l'examen, il faut bien compter 10 jours, hein, minimum. Hein. Minimum, plus les entraînements et autres. Vu le nombre d'heures attribuées, tout ce qu'il y a à voir précédemment, donc ce n'est pas du tout évident. Ne pas oublier aussi que les personnes, comme c'est un bloc optionnel, tous les étudiants ne seront pas inscrits justement à ce bloc-là. C'est vraiment une démarche donc volontaire des différents apprenants. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc maintenant, je vais vous montrer le référentiel que j'ai pu construire. Définition des compétences demandées, comme j'ai pu vous le préciser, donc par la profession. Un travail collaboratif, très important. Je ne peux pas déterminer la demande de mon bassin économique si je ne travaille pas avec eux. Donc, il y a un travail collaboratif à mettre en place. Identification des compétences spécifiques du module d'approfondissement. Donc, ça, c'est seulement des exemples. Donc, du coup, j'ai construit comme un référentiel classique. J'ai mis à gauche les activités professionnelles, les compétences et les savoirs associés. Si je prends le pôle donc d'activité numéro 1, on va retrouver, est-ce que tu peux remonter légèrement, voilà. Donc sur l'identification du cadre réglementaire, hein, en compétence, je suis partie sur identification donc des flux nationaux et internationaux d'un transport de matières dangereuses pour expliquer que c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, c'est bon, je peux le Il défile à chaque fois, donc voilà, c'est bon. Ensuite, on a identifié une matière dangereuse, effectivement, étudié les particularités des différentes classes et des risques associés aux matières dangereuses, parce qu'on a donc 13 classes et de voir les différents risques, donc il y en a 9. Acquérir toutes les connaissances de base pour pouvoir servir de l'ADR, ça c'est très important, et identifier les différentes obligations des différents partenaires lors d'un transport, d'une organisation de transport, de prestation de logistique, quels sont les différents partenaires et à partir de là, quelles sont les obligations de chacun. Ça c'est très important. Ensuite, en activité donc numéro 2, mise en application de l'ADR, comme je vous disais, quand vous passez l'examen de conseil à la sécurité, c'est de savoir utiliser l'ADR. C'est pas dire de connaître par cœur telle chose, telle chose. L'examen donc est très court, enfin dure 4 heures minimum. Et à partir de là, donc vous avez des questions, donc 50 questions en QCM et études de cas. Il faut aller très très vite. Donc si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, vous n'avancez pas, c'est pas possible. Par contre, comme les QCM sont très pointus, automatiquement vous devez faire une recherche à l'intérieur de l'ADR et de l'arrêter. Il faut savoir où aller. Donc à partir de là, il faut qu'ils arrivent à manipuler l'ADR d'une manière optimale. Sur l'activité du pôle d'activité numéro 2, donc comme je l'ai précisé, on est sur le conseil à la sécurité, donc découverte déjà du métier et bien entendu mise en œuvre des différentes missions du conseil à la sécurité. Parmi celles-ci, on va retrouver effectivement le rapport annuel qui est obligatoire, hein, ainsi que d'autres missions, cas d'accident, etc. Comment on rédige, quels sont les supports à transmettre, etc., et d'avoir tout le cadre réglementaire. Sur le pôle d'activité maintenant numéro 3, je suis partie effectivement sur l'examen. Sur l'examen d'une manière, comme je vous disais, rapide, parce qu'on n'aura pas le temps de travailler là-dessus, mais pour leur dire, si vous voulez passer l'examen de conseil à la sécurité, voilà ce qui vous attend, et au moins travailler sur une ou deux études de cas à ce moment-là. Comme ça leur permet d'avoir une première approche, et derrière dire, je veux faire ça, ce qui a été le cas de mes étudiants, hein, il y a longtemps. Hein. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait faire une intervention d'un professionnel sur le transport de matières dangereuses. Et un de mes étudiants, qui est basé à Lyon, a décidé d'être conseiller à la sécurité. Et il a monté dans son cabinet d'audit. C'est exceptionnel, hein. J'en ai eu un. Voilà. Mais voilà, ça permet à ce moment-là d'avoir une ouverture sur un autre domaine. Et c'est ce qui vous est demandé. Vous avez un bassin d'emploi, vous avez des ouvertures, il y a des demandes des professionnels. Et essayez de répondre justement aux demandes des professionnels. On est en partenariat et c'est quelque chose qui est très important pour l'insertion de nos étudiants et pour leur avenir, bien entendu.